Musk, et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, surtout vu d'Europe, oui. après toute l'aventure trumpienne où on aurait l'impression que l'image de Musk elle a oui. été quand même assez fracassée, eh ben, c'est pas le cas. Il fait encore rêver. D'accord. Parce que là-bas, il fait rêver. Parce que quand on en est à ce niveau de valorisation, on ne vend pas simplement un projet industriel. On vend une vision, on vend un rêve d'avenir et de futur.
Et c'est une manière de redorer son blason aussi, au moment où il a subi une tempête, justement, en termes d'image.
En tout cas, c'est une façon de montrer qu'il est toujours celui qui incarne une certaine vision du futur, qui est construit, on l'a beaucoup dit, au travers de ce projet spatial. Mm. Mais aujourd'hui, SpaceX, qui rentre en bourse, n'est plus simplement une entreprise spatiale. C'est aussi une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle.
De ce projet,
oui.
Est-ce que c'est vraiment rentable d'aller envoyer des data centers dans l'espace où c'est beaucoup plus difficile de les rafraîchir? Par exemple, c'est un problème des data centers, la surchauffe. Je vous avoue que je ne me prononcerai pas si ça se trouve c'est possible. Donc, si je vous dis que c'est impossible, si ça se trouve dans 5 ans, je le regretterai beaucoup. Mm-hmm. Je ne sais pas encore.
Mm-hmm. Oui. Chez Musk, c'est que c'est véritablement la figure de l'entrepreneur au sens de Schumpeter, c'est-à-dire c'est le type qui casse tout, qui casse les codes, qui essaye de repousser les limites du réel, du possible. Je pense que c'est ça qui fait que cette figure est fascinante, y compris pour les petits actionnaires qui avaient déjà investi dans Tesla, notamment. Et il faut savoir qu'il a un côté un peu comme un gamin qui a été nourri par la science-fiction, enfin, je veux dire, parce que c'est le cas, hein. Musk, il a grandi avec des récits de science-fiction, avec le guide du voyageur intergalactique, avec le site de la fondation d'Asimov, etc. Donc, en fait, son rêve, c'est effectivement de porter l'humanité plus loin, de l'emmener idéalement vivre sur Mars, de repousser les frontières de l'humanité avec le transhumanisme, hein, en nous hybridant avec des puces voilà, qui nous permettront de nous augmenter. Donc c'est l'idéal de l'humain augmenté. Donc il s'agit d'aller ailleurs, d'aller plus loin, de devenir autre que...
Conquérir la high frontier, comme on dit aux États-Unis. Il y a des tas de théories autour de ça.
Et avec un idéal philosophique derrière, évidemment, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. L'idéologie qui est la plus proche de la sienne, avait-il déclaré il y a longtemps déjà, c'est le long-termisme et l'accélérationnisme, c'est-à-dire c'est l'idée que nous devons accélérer toujours dans le développement technologique et que nous devons penser à très long terme pour l'humanité, c'est-à-dire qu'il s'agit non pas forcément de sauver ou d'améliorer la vie des gens qui vivent actuellement sur Terre, mais de penser aux 99% de l'humanité qui n'ont pas encore vécu, qui n'existent pas encore et qui seront peut-être complètement ailleurs, sur Mars, dans l'univers. Et donc évidemment, ce sont des projets complètement fous, assez inquiétants, on y reviendra, mais qui sont portés par un élan quand même impressionnant.
J'ai l'impression que c'est quand même une des composantes du personnage, il ne manque pas d'air, parce qu'effectivement, il fait cette proposition de moratoire avec une lettre ouverte, et on se rend compte qu'une vingtaine de jours avant, il a ouvert les statuts de sa nouvelle société XAI, qui était sa réponse au succès d'OpenAI, qui est la société qui, depuis, a été absorbée par SpaceX, dans laquelle il fait de l'IA, dans laquelle il fait des deepfakes, de l'imagerie artificielle, etc. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir par rapport à ce qui a été dit il y a quelques secondes, c'est sur la question de la faisabilité, c'est très intéressant.
Des data centers dans l'espace.
Effectivement, aujourd'hui, les data centers, Musk dit, c'est super pratique parce qu'on sera plus près du Soleil, en quelque sorte. Ce sont des satellites qui sont éclairés en permanence, alors que sur Terre, il y a le jour et la nuit, etc. Donc, on peut fabriquer en permanence de l'électricité. Les data centers dans l'espace seront ainsi mieux nourris, etc.
Tout suffisant, quasiment.
À contrario, ses opposants disent qu'il y a plein de problèmes, l'ordre du le refroidissement qui vient d'être dit. Mais il y a encore une vingtaine d'années, quand le même Musk disait « on va faire de la fusée réutilisable », on entendait les mêmes voix qui disaient « c'est impossible, mon ami, tu es un petit genou qui vient de la Silicon Valley ».
Et ça a été possible.
Et il l'a rendu possible. Donc il faut se méfier des grandes déclarations aujourd'hui qui disent « on n'y arrivera pas ». Parfois, on y arrive.
Ouais. Alors, c'est sincère là-dessus. Mais comme je pense que Musk peut être assez sincère aussi dans cette déclaration de faire un moratoire, c'est un peu un dilemme du prisonnier. En théorie des jeux, il y a cette histoire du dilemme du prisonnier où on est soit tous sauvés, soit un seul. Enfin, en gros, là, la situation qu'on a, c'est un peu une course en avant. Et tout ce qu'on veut, c'est ne pas être le dernier de la course si la course a lieu. Donc on peut soit faire arrêter la course pour tout le monde, soit essayer d'être le premier de la course. Et donc en gros, c'est pour ça que Musk voudrait soit un moratoire, soit faire gagner son entreprise. Et je pense que c'est un peu pareil pour Amodei.
Partie des discours un un peu contradictoire de la part des géants de la tech. On a l'impression qu'ils, attisent le débat sur l'IA par des discours volontairement apocalyptiques, tout en portant un développement à outrance de cette intelligence. Je n'ai pas de réponse à cette question, à part que je pense que derrière, évidemment, ce qui se cache, ce sont de très grands intérêts, ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire que, évidemment, chacun a intérêt à ce que son IA l'emporte sur les autres. Et il me semble aussi qu'il s'agit aussi d'augmenter notre fascination pour l'IA en nous faisant croire que nous allons forcément nous retrouver dans une situation où on aura cette fameuse intelligence artificielle générale qui dépasserait un jour l'intelligence humaine. Et alors ça, évidemment, il y a beaucoup de débats là-dessus. C'est déjà une théorie de Werner Winch dans les années 80.
Singularité.
La fameuse théorie de la singularité.
Kurzweil.
Voilà, et ensuite Ray Kurzweil au début des années 2000. C'est la théorie de la singularité qui a deux versions, c'est-à-dire soit l'intelligence va dépasser l'intelligence humaine, soit, deuxième version, pour survivre face à cette nouvelle espèce, entre guillemets, que représente l'IA, l'être humain va devoir s'hybrider avec la machine. Mm-hmm. Et Musk, évidemment, il joue sur les deux tableaux et notamment aussi sur cette hybridation.
Mm-hmm. Les gens qui utilisaient Fable 5, le dernier modèle de Claude, pour programmer à la fois une application qui représente un piano et la partition que cette application allait jouer et la manière de réaliser, de rendre les sons pour avoir quelque chose qui jouait dans le style de Haydn, enfin, incroyable d'arriver à ça, et qui jouait en live. En fait, ce qui est impressionnant, et ce que Kurzweil a très bien compris dès les années 90, il théorisait qu'en 2020, en fait, il prenait simplement la loi de Moore. La loi de Moore qui dit que la puissance de calcul disponible pour un prix donné va doubler tous les deux ans. Et il disait, à partir de ça, en faisant le postulat qui n'était pas du tout donné à l'époque, que l'intelligence, en gros, c'est de la puissance de calcul, il disait, en 2020, on va arriver dans les zones qui sont similaires à celles du cerveau humain. Donc, à peu près dans les années 2020, on va avoir des intelligences artificielles qui vont commencer à devenir puissantes. Et il prolongeait encore ça plus loin en parlant de singularité après. Mais en tout cas, c'est prouvé aujourd'hui. En fait, on peut dire que ça a été mesuré, ce qu'il nous dit. Ça s'appelle les lois d'échelle. Donc, j'en parle beaucoup dans le livre Ultra-Intelligence. L'idée, c'est on a mesuré empiriquement que, à mesure qu'on augmentait la puissance de calcul qu'on mettait dans l'entraînement d'un modèle, donc les modèles comme ChatGPT, Claude, etc., si on multiplie par 10 la puissance de calcul, l'intelligence augmente d'un cran. On multiplie encore par 10, ça augmente encore d'un cran, et mécaniquement, complètement à l'infini, sans aucune limite visible. Ouais. Et donc en fait, ça, c'est la recette pour l'AGI dont vous parliez. On est certain aujourd'hui qu'on va arriver à des intelligences artificielles qui sont plus puissantes que tous les prix Nobel, parce qu'on continue juste d'augmenter la puissance de calcul. C'est pour ça que Musk a besoin d'argent.
Et du coup, nécessité de cette puissance de calcul, et c'est peut-être le facteur limitant qui fait que cette IA générale, omnisciente, elle ne va peut-être pas arriver si vite que ça. C'est parce que pour faire fonctionner les algorithmes d'intelligence artificielle, il faut des puces très particulières, qu'on appelle les GPU, qui sont fabriquées par certaines entreprises expertes, il y a la fameuse NVIDIA. Et aujourd'hui, il y a une forme de tension sur l'approvisionnement de ces puces. C'est pour cette raison, par exemple, qu'on voit des acteurs comme SpaceX, qui, encore une fois, est devenu un acteur d'intelligence artificielle, qui a acheté des centaines de milliers de GPU pour faire des data serveurs, qu'elle sous-traite, qu'elle loue maintenant à d'autres acteurs comme Google ou Anthropic. Donc, cette ressource première, ce pétrole de l'intelligence artificielle, qui sont les GPU, il ne va pas y en avoir pour tout le monde.
Et qui sont en Asie pour
là, qui fabriquent le nec plus ultra de ces puces-là. Mais ce qu'on voit, c'est que Trump a décidé de limiter les exportations de ces super puces vers la Chine. Mais en réponse, les Chinois, avec le fameux logiciel DeepSeek, ont montré qu'ils étaient capables, avec des puces locales, qui a priori étaient moins puissantes, d'arriver à des résultats qui sont comparables aux meilleurs résultats des Américains. Donc, on est dans une course
d'obstacles. Moreau,
la Chine et les États-Unis.
Oui, alors Macron répondait à Trump qui disait drill,
à propos du pétrole.
Voilà, à propos du pétrole. Et en fait, ce qui est frappant là-dedans, c'est que on a tendance à croire que l'IA, voilà, c'est une sorte de puissance magique complètement détachée du réel et que l'électricité est une énergie propre et que donc il n'y aura aucun problème qu'en France, avec le nucléaire, si tant est qu'on soit pour le nucléaire, on s'en ressortira. Or, on se rend compte que là, on assiste à un énorme effet rebond, hein, comme le disent les spécialistes de l'écologie, c'est-à-dire que le fait qu'une énergie soit disponible en quantité, ça
incite à en utiliser plus.
Justement, à en utiliser beaucoup plus et à en utiliser automatiser énormément plus avec l'IA, qui pose des problèmes donc de ressources d'électricité, mais aussi effectivement de minerais rares, etc., mais aussi de consommation d'eau, parce qu'il faut, refroidir les data centers, et enfin aussi qui pose aussi des problèmes d'emprise au sol, parce que les data centers sont
des
souvent
hectares et des hectares.
D'une taille gigantesque, donc ce qui pose des problèmes de biodiversité, etc. Mais pour aller au-delà de ça, moi, ce qui me semble très, très complexe à aborder, c'est aussi le fait que les grandes entreprises, soit qui développent de l'IA, soit qui utilisent l'IA, ont aussi souvent un rôle géopolitique, comme par exemple une entreprise comme Palantir, fondée par Peter Thiel et dirigée par Alex Karp, qui a un modèle, qui a un modèle politique, voilà, c'est-à-dire qui considère...
Comment vous le qualifieriez, libertarien
C'est plus que libertarien, parce que les libertariens, ils sont contre l'État. Alex Karp, avec sa République technologique, c'est le dirigeant de Palantir, il considère que finalement... La technologie, son entreprise de surveillance, qui est Palantir, doit pénétrer les administrations, administrer ses données et, en définitive, se rendre indispensable aux administrations, y compris aux administrations européennes, ce qui pose problème, évidemment.
Le crime des emplois, est-ce que c'est aussi simple que ça?
Alors, on est quand même en plein là-dedans, c'est vrai. En Chine aussi, je disais ce matin que l'équivalent de 70 millions d'emplois était menacé en Chine par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des programmes, il y en a un qui s'appelle Open Cloud par exemple, qui se plug sur votre environnement de bureau et qui est capable de se mettre en connexion avec vos Messenger, WhatsApp, Slack et compagnie et faire votre travail sans qu'il soit sollicité. Chez Meta, il est quand même troublant de voir que dans le même temps, on apprend que Zuckerberg demande à ses ingénieurs de construire une IA qui soit un double virtuel de lui-même. Un patron bis, et dans le même temps, il annonce le limogeage de 10% de ses équipes parce que, explique-t-il, il faut des sous pour financer l'IA, mais aussi avec les solutions d'IA, on a besoin d'équipes qui sont beaucoup moins grosses qu'aujourd'hui.
Émeric Rochet, l'impact que ça a, on a tendance à beaucoup le surévaluer, l'impact sur l'environnement. Donc là, par exemple, il y avait le débat, donc Arthur Mensch a été donc, le patron de Mistral AI, la boîte leader française européenne, a été auditionné à l'Assemblée nationale et un député en face de lui a dit attention, le grand data center que vous voulez faire va représenter 70 hectares de surface agricole. Donc j'ai regardé, 70 hectares, ça fait 0,0003% de la surface agricole française. Ça va consommer de l'eau. Il y a des gens qui ont chiffré combien ça consomme. Un data center de cette taille-là, ça consomme environ 2,5 fois de la consommation d'un McDonald's à l'année. Donc il vaudrait mieux manifester devant les McDonald's. Vous voyez, il y a des ordres de grandeur qui ne sont pas bons.
Et rapidement, pardon, sur le travail, est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou vous croyez à la destruction créatrice et que finalement l'IA ne va pas détruire tant d'emplois que cela à terme?
Alors je pense que vous avez très bien formulé l'attention. Vous avez posé la question, est-ce que investir dans l'IA, ça veut dire supprimer des emplois? En fait, je pense que c'est plutôt l'investissement en IA des autres qui va supprimer nos emplois. Je pense qu'il faut plutôt voir le problème comme ça. En fait, aujourd'hui, s'il y a des emplois supprimés en France, c'est pas par Mistral, malheureusement, parce que Mistral n'est pas leader dans les parts de marché en France. C'est par Claude, ChatGPT. C'est ça qui détruit les emplois. Donc,
qu'on soit meilleur.
Je pense que le seul moyen, c'est dans...
À l'échelle européenne et pour les Français, qu'on soit meilleur. Et plus
voilà. Ou alors interdire les IA étrangères, mais dans ce cas, on prendra un choc de compétitivité monumental. Donc, je pense que c'est mieux de développer.
C'est un autre débat.